Chapitre 5. Il fallut pourtant bien soulever une partie du voile qui dérobait le mystère des grands préparatifs hostiles dont tout le nord de l'Allemagne était déjà le théâtre. Le Sénat fut assemblé extraordinairement pour recevoir la communication de deux rapports qui étaient censés avoir été adressés à l'empereur, l'un par le ministre des Relations extérieures, l'autre par le ministre de la Guerre. Cette jonglerie, à la fois guerroyante et diplomatique, n'avait pas d'autre but que celui d'obtenir un rappel au service militaire des hommes que la conscription avait épargnés et la formation de cohortes de premier banc d'après une nouvelle organisation de la garde nationale qui divisait en trois bancs ou trois catégories l'immense majorité de notre population virile. Il n'y avait pas d'exagération, cette fois, à considérer la France comme un vaste camp d'où nos phalanges s'élanceraient de toutes parts sur l'Europe comme sur une proie. Pour colorer cet appel des classes qui se trouveraient libérées de la conscription, il fallut un mobile et des prétextes nouveaux puisqu'on ne voulait point encore révéler le vrai motif de mesures si extraordinaires. Marais parla au Sénat de la nécessité de forcer l'Angleterre à reconnaître le droit maritime établi par les stipulations du traité d'Utrecht, stipulations que la France avait abandonnées à Amiens. Mais la levée du premier banc des gardes nationales fut accordée par un senatus consulte et 100 cohortes furent mises à la disposition du gouvernement. Nous étions au Sénat d'une docilité et d'une souplesse admirables. En même temps, on signait les deux traités d'alliance et de secours réciproques avec la Prusse et l'Autriche. Il n'y avait plus de doute, Napoléon allait attaquer la Russie, non seulement avec ses propres forces, mais encore avec les soldats de l'Allemagne et de tous les petits souverains qui ne pouvaient plus se mouvoir que dans l'orbite de sa puissance. La guerre était tout à fait décidée quand il fit ouvrir, par son ministre intime, de nouvelles négociations avec Londres, mais tard et maladroitement. Quelques personnes, au fait de toutes les intrigues, m'assurèrent alors que le cabinet se servait de ce grossier expédient de concert avec les principaux Russes du parti français. Se voyant à la veille d'être expulsé des conseils de Saint-Pétersbourg, il s'était imaginé que l'empereur Alexandre, effrayé par l'idée de la possibilité d'un arrangement entre la France et l'Angleterre, rentrerait dans le système continental pour ne pas rester isolé et qu'il fléchirait de nouveau sous la volonté de Napoléon. Quoi qu'il en soit, Marais écrivit à Lord Castlereagh une lettre contenant les propositions suivantes. Renoncer à toute extension du côté des Pyrénées, déclarer indépendante la dynastie actuelle de l'Espagne et garantir l'intégrité de cette monarchie. Garantir à la maison de Bragance l'indépendance et l'intégrité du Portugal, de même que le royaume de Naples à Joachim et le royaume de la Sicile à Ferdinand IV. Quant aux autres objets de discussion, notre cabinet proposait de les négocier sur cette base que chaque puissance garderait ce que l'autre ne pourrait lui ravir par la guerre. Lord Castlereagh se contenta de répondre que si, par dynastie actuelle de l'Espagne, il était question du frère du chef du gouvernement français et non de Ferdinand VII, il lui était ordonné par son souverain de déclarer franchement qu'il ne pouvait recevoir aucune proposition de paix établie sur cette base. Il fallut en rester là. Confus de ces ouvertures, notre cabinet, qui n'avait eu en vue que d'amener la Russie à quelque acte de faiblesse, s'aperçut trop tard qu'il avait imprimé à notre diplomatie un caractère de versatilité, de mauvaise foi et d'ignorance. Comme tout se passait dans le secret du cabinet, ce qui déroutait le plus les politiques, c'est qu'en France, et même en Russie, on gardait encore, tout en faisant d'immenses préparatifs, les dehors de la bonne intelligence. L'empereur Alexandre avait toujours son ambassadeur à Paris et Napoléon son ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Mais de plus, Alexandre entretenait à Paris le comte de Tchernychev, son diplomate de confiance. Cet aimable russe, au milieu des dissipations d'une cour brillante et de mystères de plus d'une intrigue amoureuse maladroitement voilée à dessein, ne négligeait pas une mission plus secrète, plus utile à son maître. Secondés par des femmes, les unes passionnées, les autres intrigantes, ils faisaient mouvoir des fils au moyen desquels ils pénétraient les vrais desseins de Napoléon pour l'invasion de la Russie. Soupçonné sur l'objet secret de sa mission, il était épié, surveillé, mais sans fruit. Enfin, Savary finit par lui décocher un homme attaché à la police qui lui donne des renseignements faux et en tire de nouveaux indices qui aggravent la suspicion. Mais à la faveur de ces liaisons galantes, Tchernychev est averti à temps. Il évite le piège, maltraite l'espion et va se plaindre à Marais d'être en butte à des procédés si outrageants. Ce jour-là même, l'empereur, instruit de l'objet de sa démarche, se décide à lui faire communiquer les rapports secrets qu'il inculpe. Tchernychev sort triomphant de cette épreuve par l'exposé de sa conduite et de ses motifs de plainte. La police reçoit l'ordre formel de ne plus le surveiller. Libre ainsi de continuer ses explorations, il parvient à en remplir l'objet. Il avait le plus grand intérêt à se procurer les états des mouvements de l'armée française. Il y réussit à la faveur d'un commis de bureau des mouvements appelé Michel. Une imprudence de ce commis, qui livrait ainsi le secret des opérations de l'empereur, ayant donné l'éveil à la police, on le suit et on l'arrête. Tchernychev en est instruit sur l'heure et il s'éloigne de Paris en toute diligence, emportant des renseignements précieux. En vain, on donne l'ordre par le télégraphe de se saisir de sa personne, il a 5 à 6 heures d'avance. Elles lui suffisent pour s'échapper et franchir le Rhin. Il venait de passer sur le pont de Kehl lorsque la transmission télégraphique portant l'ordre de l'arrêter parvint à Strasbourg. La précipitation avec laquelle il avait quitté Paris lui avait fait négliger de brûler sa correspondance furtive qu'il avait pris l'habitude de cacher sous le tapis de sa chambre. Naturellement, elle devint l'objet de perquisitions minutieuses qui amenèrent des agents de police à la découverte des papiers de Tchernychev. On y trouva d'abord la preuve qu'il avait régné une grande intimité entre le seigneur russe et plusieurs dames de la cour de Napoléon, entre autres la duchesse de R. Elle s'en tira, dit-on, en alléguant qu'elle avait agi de concert avec son mari pour tâcher de pénétrer l'objet secret de la mission de Tchernychev. Parmi les papiers découverts, on trouva une lettre de la main de Michel, l'accablante pour ce prévenu, qui paya sa trahison de sa tête. La procédure fit ressortir un fait curieux, c'est que le cabinet russe prévoyait même, à l'époque de l'entrevue d'Erfurt, la possibilité d'une rupture avec la France. C'était alors que Romanzoff disait, pour justifier sa politique complaisante et en parlant de Napoléon, « il faut l'user ». Les circonstances de la fuite de Tchernychev, bientôt connues dans les salons, firent grand bruit et cette affaire accéléra la rupture. Déjà l'empereur, dont le départ était résolu, cherchant à obtenir quelque popularité, visitait les divers quartiers de Paris, examinant les travaux publics et jouant des scènes préparées, soit avec le préfet de Paris, soit avec le préfet de police Pasquier. Il allait fréquemment aussi à la chasse, affectant de paraître plus occupé de plaisir que de la grande entreprise qu'il méditait. Je le vis à Saint-Cloud, où j'allais lui faire ma cour, sans aucune intention de solliciter ni d'épier une audience. L'aspect morne de cette cour, l'air soucieux des courtisans, me parurent contraster avec l'assurance du chef de l'État. Jamais il n'avait joubi d'une santé plus parfaite, jamais je n'avais vu briller sur son front, sur ses traits, dont les contours dessinaient l'antique, les signes d'une plus grande vigueur d'esprit, d'une plus sûre confiance en lui-même, puisée par le sentiment profond de sa force. J'en éprouvais une impression de tristesse involontaire que je n'aurais pu définir si les plus fâcheux pressentiments n'avaient assiégé mon esprit. Cependant, le cabinet de Saint-Pétersbourg, soit qu'il eût réellement l'intention d'employer tous les moyens de rapprochement compatibles avec l'indépendance de l'Empire russe, soit qu'il n'ait eu en vue que de se procurer des intentions positives sur les vraies intentions politiques de Napoléon, donna l'ordre au prince Kourakine de faire connaître au gouvernement français les bases d'un arrangement que son souverain consentait à conclure. Ces bases étaient la délivrance de la Prusse, une diminution de la garnison de Danzig et l'évacuation de la Poméranie suédoise. À ces conditions, le tsar s'engageait à n'opérer aucun changement aux mesures prohibitives contre le commerce direct avec l'Angleterre et à concerter avec le cabinet de France un système de licence à établir en Russie. La note de Kourakine demeura 15 jours sans réponse. Enfin, le 9 mai, jour du départ de l'empereur pour l'Allemagne, Marais demande à Kourakine s'il a des pleins pouvoirs pour traiter. Kourakine répond que le caractère d'ambassadeur dont il est revêtu doit suffire. Ne pouvant obtenir qu'une réponse dilatoire, il requiert ses passeports qu'on lui refuse sous divers prétextes. On ne les lui expédie que de Thorn le 20 juin, manège oblique ayant pour objet de donner le temps à Napoléon de passer le Niémen avec toutes ses forces pour surprendre à Vilna son auguste adversaire avant qu'il ait pu recevoir de son ambassadeur la moindre information. Le sort en est jeté, le Niémen est franchi par 600 000 hommes, par la plus belle armée, la plus formidable qu'ait jamais pu rassembler aucun des conquérants de la terre. Mais laissons Napoléon, laissons cet illustre fou courir à sa perte, ce n'est pas son histoire militaire que je raconte. Constatons l'état de l'opinion au moment où, traversant l'Allemagne et s'arrêtant à Dresde, il attirait à lui les regards inquiets de 20 peuples. Voyons d'abord ce qu'on pensait dans ces mêmes salons de Paris dont il désirait tant le suffrage. On y laissait échapper des vœux pour son abaissement et même pour sa chute, tant son agression semblait inspirée par une ambition en délire. Dans les classes intermédiaires et parmi le peuple, l'esprit public ne lui était pas plus favorable. Toutefois, le mécontentement n'y était point hostile. On aurait voulu garantir Napoléon de ses propres excès et le contenir dans de plus justes bornes. Quelques personnes s'imaginaient qu'une résistance combinée de ses maréchaux et de l'armée finirait par régler ses déterminations et le maîtriser lui-même. C'était bien peu connaître le prestige de la guerre et les habitudes des camps. J'avais été apporté de m'assurer qu'il n'était jamais sorti de la tête d'aucun général mécontent la moindre vue politique propre à nous garantir des abus de la victoire ou des dangers d'un désastre. Il y avait d'ailleurs au fond de tout cet esprit des approbateurs un sentiment qui prévalait, celui d'une vive attente, d'une curiosité inquiète sur l'issue de cette expédition gigantesque de l'homme extraordinaire dont l'ambition dévorait les siècles. On admettait assez généralement qu'il resterait vainqueur et maître de la terre. Quant aux têtes politiques, en considérant la destruction de la Pologne d'une part et les empiétements de la Révolution de l'autre, ils voyaient l'Allemagne entre deux débordements, celui des Français à l'Occident et à l'Orient celui des Russes. C'était ceci que Napoléon voulait refouler sur les glaces du pôle ou dans les steppes de l'Asie. Cet homme que rien ne pouvait arrêter, qui entraînait à sa suite la moitié des soldats de l'Europe et dont les ordres étaient exécutés ponctuellement dans un espace qui comprenait 19 degrés de latitude et 30 degrés de longitude, cet homme qui débordait en Russie allait jouer sa fortune et l'existence de la France. En proclamant la guerre, en s'élançant au-delà du Niémen, il s'écrit par une inspiration feinte « La fatalité entraîne les Russes, que le destin s'accomplisse ». Plus calme, son adversaire, qui n'ose l'attendre à Vilna, recommande à ses peuples de défendre la patrie et la liberté. Quel contraste entre les deux pays, entre les deux adversaires et leur langage. D'abord, la retraite forcée des Russes, qui partout les plus faibles et les moins aguerris cherchent à éviter le choc et la dévastation du territoire qu'ils occupèrent systématiquement, sont regardées comme deux grandes mesures de guerre, résultat d'un plan arrêté pour attirer Napoléon au fond de l'Empire. Mais l'imagination s'effraie bientôt quand, après un furieux combat, Napoléon dépasse Smolensk, seul boulevard de la Russie sur les frontières de la Pologne, contre l'avis de la majorité de ses maréchaux et au mépris de l'espèce d'engagement qu'il a contracté à Paris envers son propre conseil. On s'inquiète quand on le voit avancer sur la ligne de Moscou, sans hésitation affrontant tous les hasards, ne calculant ni le caractère de ses ennemis, ni les dispositions de l'Europe impatiente du jour, ni le temps, ni les distances, ni l'âpreté du climat. Enflé du gain de la plus sanglante bataille de nos temps modernes, où 100 000 soldats sont sacrifiés à l'ambition d'un seul homme, et nullement ému du pénible et douloureux aspect de ses bivouacs, Napoléon croit enfin pouvoir opérer la destruction d'un vaste et puissant empire comme il a improvisé jadis la chute des républiques de Gênes, de Venise et de Luc. Les Russes se retirent armés de torches. Ils ont brûlé Smolensk, Dorigobni, Vyazma, Gyat, Majaïsk, et ils s'imaginent qu'ils vont lui réserver Moscou. L'incendie de cette belle capitale, en le désabusant plus tard, vint éclairer la France de ses lueurs sinistres. La sensation fut profonde. J'y vis, hélas, se réaliser mes pressentiments. J'y vis un but, celui d'enlever au vainqueur un gage et au vaincu un motif pour conclure la paix. Que fait Napoléon, témoin de ce grand sacrifice national? Il campe 40 jours sur les cendres de Moscou, dans la contemplation de sa vaine conquête, ne doutant pas de clore la campagne par des négociations, ne soupçonnant pas même la réunion ordonnée sur Borisov, à 100 lieues sur ses arrières, de 2 armées russes, l'une partie du golfe de la Livonie, l'autre de la Moldavie. Il ignorait peut-être que la Russie, sans un allié à l'ouverture de la campagne, venait de signer coup sur coup 3 traités d'union avec la Suède, l'Angleterre et la régence de Cadix. Dans l'intervalle a lieu l'entrevue d'Abo entre l'empereur Alexandre et Bernadotte en présence de Lord Cathcart, entrevue où était fait le premier appel à Moreau qu'on voudrait opposer à son persécuteur, à celui qu'on signale comme l'oppresseur de l'Europe. On lui a livré le cadavre de Moscou et il ne comprend pas encore un système de guerre qui est hors de sa stratégie. Pendant 22 jours, il attend une démonstration suppliante de l'empereur de Russie, dont le cabinet se joue de ses pourparlers et de ses négociateurs. Aveugle en Espagne, Napoléon reste-t-il à Moscou? Ses dispositions prudentes rentraient trop dans un ordre méthodique dont il avait horreur. Il se met enfin en retraite, mais quand l'heure fatale a sonné. Il se met en retraite et le jour même de l'évacuation tardive de Moscou, le 23 octobre, éclate à Paris la conspiration Mallet, si humiliante pour le chef de l'État, pour ses suppôts, pour sa police, conspiration qui le met lui-même à 2 doigts de perdre l'Empire pour avoir voulu satisfaire la vanité de dater quelques décrets de Moscou. La conspiration Mallet n'a pas été comprise. Mallet n'était pas un fou, c'était un audacieux. Peu connu comme général, il fut d'abord compromis en 1802 dans la conspiration dite du Sénat, dont Bernadotte était l'âme, Madame de Staël le foyer, et lui l'agent principal, conspiration pour laquelle je fus dénoncé moi-même comme complice par le préfet de police Dubois. Il fallut bien emporter toute la culpabilité sur Mallet. On le mit en prison. Rendu à la liberté lors de l'armistice du Sacre, il fut employé en 1805 à l'armée d'Italie. Là, et à son retour, il ourdit de nouvelles trames contre l'empereur, compromis tantôt Brune, tantôt Masséna, et finit en 1808 par être jeté dans le donjon de Vincennes. Ce fut dans l'ombre de cette prison qu'il trama sa conspiration double, qui devait rallier les oppressants de tous les partis au gouvernement de l'empereur. Mais toute la conspiration n'était pas dans la tête de Mallet. La pensée en était royaliste et l'exécution républicaine. En effet, aucun succès n'était possible que par l'accord des 2 opinions extrêmes qui cimentaient une haine commune et un besoin mutuel de renverser l'oppresseur pour rétablir les libertés publiques. Tout était opportun pour les conjurer dans la plus hardie des entreprises. Du moment que le mode d'exécution ne dépendait que d'un homme seul et que cet homme était sûr, plein de résolution, de courage, toutes les conditions pour la probabilité du succès étaient remplies. Le reste était livré aux chances du hasard. Essayons de le démontrer, et d'abord voyons dans quelles mains le pouvoir était délégué dans l'absence de l'empereur. Sans aucun doute, l'archichancelier Cambacérès en était le dépositaire, homme lâche et flétri, vrai sycophante. Parmi les ministres, un seul se gonflait parce qu'il tenait la police, qui pour lui restait muette de révélation. Mais cet homme, roi d'officiers de gendarmerie, était nul en politique et en affaires d'État. Venait en seconde ligne Pasquier, préfet de police, excellent magistrat pour statuer sur les boues et les lanternes, pour régler la police des marchés, des jeux, des courtisanes, mais vide de sens et chargé de paroles. Nul quant au tact et l'investigation. Voilà pour le civil. Passons au militaire. Le pouvoir du sabre résidait dans la personne d'Hulin, commandant de Paris, épais soldat, mais ferme, quoique tout aussi engourdi, tout aussi gauche en politique. Ajoutons que l'exercice de l'autorité était devenu pour les principaux fonctionnaires une sorte de mécanisme. Hors de là, ils n'apercevaient plus rien que l'obéissance passive. Ajoutons que l'impératrice Marie-Louise résidait à Saint-Cloud, qu'il n'y avait alors dans la garnison de Paris aucune de ces vieilles troupes fanatisées qui, au nom de l'empereur, auraient mis tout à feu et à sang, qu'on les avait remplacées par des cohortes organisées nouvellement et la plupart commandées par d'anciens officiers patriotes. Ajoutons enfin que chez les hauts fonctionnaires, l'inquiétude sur le dénouement de l'expédition moscovite commençait à ébranler la sécurité. Or, Paris, comme on le voit, pouvait, à la suite d'un habile et vigoureux coup de main, rester au premier occupant. L'extrême éloignement de l'empereur, l'irrégularité et l'interruption fréquente des courriers, en aggravant les inquiétudes et en préparant les esprits, permettaient de calculer toutes les chances à qui saurait oser dans un moment de stupeur et d'effroi. L'empereur est mort. Un décret du Sénat abolit le gouvernement impérial, un gouvernement provisoire le remplace, tel fut le pivot de la conjuration dont le moteur et le chef étaient Mallet. Lui-même avait fabriqué le Senatus Consulte portant abolition du gouvernement impérial. Mais, vous le voyez, dira-t-on, il n'y avait pas de décret du Sénat, il n'y avait pas de gouvernement provisoire, l'empereur était plein de vie et la conjuration n'avait pour base qu'une fiction. Or, comment Mallet aurait-il pu l'accomplir en supposant même qu'il fût resté maître de Paris? Il n'y avait pas de décret du Sénat, dites-vous, mais êtes-vous bien sûr qu'il n'y eût pas dans le Sénat un noyau d'opposition qu'on eût pu faire agir selon les circonstances? Je pose en fait que sur 130 sénateurs, près de 60 qui d'ordinaire marchaient sous la direction de M. de Talleyrand, de M. de Semonville et sous la mienne, auraient secondé toute révolution dans un but salutaire à la seule manifestation de l'accord de cette triple alliance. Or, une telle coalition n'était ni improbable ni impraticable. Cette possibilité explique la création d'un gouvernement provisoire éventuel composé de messieurs Mathieu de Montmorency, Alexis de Noailles, le général Moreau, le comte Frochot, préfet de la Seine, et un cinquième qu'on n'a pas nommé. Eh bien, ce cinquième, c'était monsieur de Talleyrand, et je devais moi-même remplacer le général Moreau absent, dont le nom était là, soit comme pierre d'attente, soit pour satisfaire ou diviser l'armée. Quant à Mallet, instrument précieux, il eut cédé de son propre mouvement le commandement de Paris à Masséna, qui, ainsi que moi, vivait alors dans la retraite et dans la disgrâce. « Mais répondez, dira-t-on, à cette dernière et plus forte objection. L'empereur était plein de vie. Sans doute, mais souvenez-vous comment s'opéra la révolution impériale qui renversa Néron, sans que je veuille pourtant comparer les deux personnages. » Elle se fit à l'aide de faux bruits et d'alarmes par un sénat servile et tout à coup déchaîné. Au moment où Mallet fit son coup de main, où était Napoléon? Il évacuait Moscou. Il commençait sa désastreuse retraite, qui n'était que pressentie, mais qui, une fois dévoilée, aurait décidé de la défection, si 15 à 20 personnes considérables eussent remplacé au pouvoir et au nom du salut de la France les premiers moteurs de la conjuration. Songez que déjà les coursiers et les bulletins étaient interrompus, que les 26e et 27e bulletins annonçant l'évacuation et la retraite sous la date du 23 octobre ne furent suivis que par le 28e qui porte la date du 11 novembre. Or, il y eut plus de 15 jours d'interruption. Ils auraient suffi pour assurer le triomphe d'une trame dont les ramifications resteront longtemps inconnues. Pendant un mois, on allait apprendre qu'une suite continuelle de désastres dont la connaissance seule pouvait alors fermer à jamais les portes de la France à l'empereur. Cru mort dans les premiers moments, il n'aurait ressuscité que pour être frappé d'un décret de déchéance. Jamais une époque plus propice ne s'était encore présentée pour opérer le renversement de sa dictature militaire. Jamais il n'eût été plus facile d'établir les prémices d'un gouvernement qui nous eût réconciliés avec nous-mêmes et avec l'Europe. Admettez-en la supposition, à combien de calamités nouvelles la France n'aurait-elle pas été soustraite? À présent, examinons quelles furent les causes qui firent échouer Malet au milieu même de son triomphe. Le dirais-je, c'est pour avoir réglé ses moyens d'exécution sur une base trop largement philanthropique. Expliquons-nous. Malet, républicain, tenant de même que Guidal et Lahorie, devenus ses complices à la société secrète des Philadelphes, craignit avec raison de faire revivre l'appréhension du retour de ces jours de sang et de deuil dont la France conservait une juste horreur. Cette considération morale l'emportait sur toute autre considération plus décisive, et au lieu de tuer sur le champ Savary, Hulin et les deux adjudants, Doucet et Laborde, meneurs de l'état-major, Malet crut pouvoir se borner à la mesure de leur arrestation sans effusion de sang. Elle lui réussit d'abord à l'égard de la police qui se trouva désorganisée dès que Savary et Pasquier se laissèrent surprendre et traîner honteusement en prison. Mais quand la résistance d'Hulin eut forcé Malet de tirer ses pistolets, son hésitation le perdit, ne pouvant faire feu à la fois sur Hulin et sur Laborde. Ce dernier, resté libre, eut le temps de rallier quelques hommes à lui et, se jetant sur Malet, le désarma, l'arrêta et fit évanouir la conjuration. Malet mourut avec sang-froid, emportant le secret d'un des plus hardis coups de main que la grande époque de notre Révolution lègue à l'histoire. La facilité avec laquelle cette surprise de doux pouvoir s'était effectuée semblait un indice qu'elle n'était pas inattendue. Tout était prêt à l'hôtel de ville pour l'installation du gouvernement provisoire. Pâle, tremblant jusqu'à 10 heures du matin, l'archichancelier, en proie aux plus vives alarmes, croyait tantôt qu'on allait venir le tuer, tantôt qu'il partagerait au moins le cachot avec Savary. Quant au peuple, il ne fit rien. Il est vrai, pour le secret d'une entreprise, d'abord enveloppée des ombres de la nuit, mais il la secondait par cette force d'inertie, toujours contraire au mauvais gouvernement. Enfin, quoique déjoué, ce complot frappa au cœur la dynastie de Napoléon en révélant un funeste secret pour son fondateur, pour sa famille, pour ses adhérents. C'est que son établissement politique finirait avec sa personne. Ce fut à Smolensk, du 14 au 16 novembre, que l'empereur, au milieu des angoisses de sa retraite, reçut le premier avis de la conjuration et la prompte exécution de ses auteurs. Il en fut troublé. Quelle impression cela va faire en France, dit-il. Savary et Cambacérès lui mandaient qu'il eût à surveiller l'armée où il sourdissait des trames contre sa vie. Aussitôt, des précautions inusitées sont prises. On forme un escadron sacré des officiers les plus dévoués dont on confia à Grouchy le commandement. Mais cette cavalerie d'élite est bientôt entraînée dans la dissolution générale. Soupçonneux à l'excès de tout ce qui menace son trône, Napoléon songe bien plus à le garantir qu'à sauver les débris de son armée dont il précipite la retraite. Grâce à l'inhabile poursuite de Kutuzov, il dérobe 3 marches aux Russes, arrive sur la Bérézina, trompe les généraux de l'armée de Moldavie et, sous la protection d'un désastre immense, gagne la rive opposée. On ne voit plus, çà et là, que des spectres errants qui succombent aux rigueurs du froid, de la fatigue et de la misère. Napoléon, décidé à terminer en fugitif une expédition qui va le rabaisser comme général et lui ravir la réputation d'homme d'État, fuit en traîneau, ne se confiant qu'au dévouement de Caulaincourt. Il se dirige en toute hâte et furtivement sur Paris, où tout le fait trembler pour la perte de sa couronne. À Varsovie, lui-même révèle à son ambassadeur sa position et l'état de son âme par ses paroles si connues. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Toujours frappé de la crainte de ne pouvoir gagner la France, il cherche à surmonter le péril par la rapidité de sa fuite, en traversant toute l'Allemagne et toujours incognito. En Silésie, on le voit au moment d'être retenu par les Prussiens. À Dresde, il n'échappe à un complot pour l'enlever que par le seul motif que Lord Walpole à Vienne n'ose en donner le signal. Et comme si la fortune eût voulu l'éprouver jusqu'au bout, il rentre au palais des Tuileries le 18 décembre, le lendemain de la publication de son 29e bulletin qui porte le deuil dans toutes les familles. Mais c'est de sa part un nouveau piège offert au dévouement et à la crédulité d'une nation généreuse qui, toute consternée, croit que son chef, corrigé par les revers, est prêt à saisir la première occasion favorable de ramener la paix et d'asseoir enfin le fondement du bonheur général. C'est ainsi que la France se prépare au plus grand sacrifice pour le soutien d'un homme qui n'a réussi qu'à fouler les cendres de Moscou, à porter le ravage dans une vaste étendue de territoire qui laisse joncher de 150 000 cadavres de ses sujets ou alliés, abandonnant un nombre plus considérable de prisonniers, toute son artillerie et tous ses magasins. De 400 000 soldats qui ont franchi le Niémen, à peine 5 mois après, 30 000 repassent le fleuve, parmi lesquels les 2/3 n'ont pas vu le Kremlin. Cependant, Napoléon paraît d'abord bien moins préoccupé de la perte de son armée que de la conspiration qui vient de révéler un secret fatal, celui de la fragilité des fondements de son empire. Tourmenté par la prévoyance qu'on a de sa mort, son front soucieux reste chargé de nuances. La conspiration est l'objet de ses premiers discours, de ses premières enquêtes. Il s'enferme avec Cambacérès et le scrute dans un long entretien secret. Puis il mande Savary, qui l'accable de questions et de reproches. Il reçoit plusieurs membres de son conseil et paraît toujours préoccupé de la conjuration, tandis qu'il trouve ses ministres et ses agents dans la terreur. Mais sa police, intéressée à isoler la trame, soutient que tout le complot était dans la tête de Mallet. Telle est aussi l'opinion de Cambacérès, du ministre de la guerre et des conseillers intimes, qui fortifie Napoléon dans l'idée que le plus grand danger pour lui et contre lequel il doit se prémunir réside dans les souvenirs de la République. Furieux contre le préfet de la Seine, adepte du tribun Mirabeau et qu'on a vu fléchir devant les conjurés, il éclate contre les magistrats pusillanimes qui, dit-il, détruisent l'empire des lois et les droits du trône. Nos pères avaient pour cri de ralliement « Le roi est mort, vive le roi !» Ce peu de mots, ajoute Napoléon, contient les principaux avantages de la monarchie. Tous les corps de l'État viennent aussitôt protester de leur fidélité présente et future. L'orateur du Sénat, Lacépède, qualifiant son corps de premier conseil de l'empereur, ajoute bien vite « dont l'autorité n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement ». Cette allusion au mobile dont s'était servi Mallet frappa les sénateurs. Dans sa réponse au Conseil d'État, Napoléon, attribuant à l'idéologie, métaphysique ténébreuse, tous les malheurs qu'a éprouvé la belle France, s'efforça de flétrir la philosophie et la liberté. Il ne vit pas qu'en cessant de continuer la Révolution et ses principes, il cessait d'y trouver aide et appui, et qu'en préconisant les maximes de la légitimité monarchique, il rouvrait aux Bourbons les voies fermées par la Révolution. Et pourtant, dans les grandes crises, les Bourbons occupaient sa pensée. Outre ce que j'avais vu et entendu de lui à cet égard, j'eus alors connaissance du trait suivant. Ney, en me racontant les désastres de sa retraite et faisant ressortir la fermeté de sa conduite militaire en opposition avec l'imprévoyance et la stupeur de l'empereur, ajouta qu'il avait remarqué en lui une sorte d'égarement. « Je le crus fou, me dit Ney, quand, frappé de son désastre au moment de nous quitter, il nous dit, comme un homme qui se croyait sans ressources, « les Bourbons s'en tireraient ». Propos dont le sens échappait à Ney, incapable de combiner deux idées politiques. Or, il s'agissait pour Napoléon de faire prévaloir la 4e dynastie sur la 3e et de surmonter la crise. Aussi vit-on tous les corps de l'État occupés à résoudre une nouvelle question de droit public d'après l'impulsion du cabinet, d'après les premières paroles échappées au maître. « Je vais, leur dit-il, réfléchir sur les différentes époques de notre histoire. » Aussitôt, chacun songe aux moyens d'assurer l'hérédité. Tous les orateurs s'empressent de développer la doctrine nouvelle. On ne parle plus que d'hérédité, de droit légitime. C'est le thème de tous les discours d'apparat. Il faut, dit-on, couronner le roi de Rome sur la demande expresse du Sénat et qu'un serment solennel unisse d'avance l'Empire à l'héritier du trône. Voyons sur quel mobile prétendait s'appuyer l'homme qui, redevable à la Révolution d'une vaste puissance dont il venait de détruire la magie, reniait cette même Révolution et s'isolait d'elle. Il sentait pourtant toute l'instabilité d'un trône qui ne s'appuyait que sur l'épée. Pendant qu'il se gendarmait contre les hommes et les principes de la Révolution, je lui revins à l'esprit, moi, contre lequel il avait nourri tant de soupçons et d'inquiétudes. D'ailleurs, pouvait-il me pardonner mes avertissements désapprobateurs et ma prévoyance importune? On m'avertit que j'avais été de sa part l'objet d'une sourde enquête au sujet de la tentative de Mallet, mais que tous les rapports sur mon isolement et ma circonspection s'étaient trouvés unanimes. Ne pouvant m'atteindre, il me frappa dans mon ami, M. Malouet, ne lui pardonnant pas de m'avoir visité ouvertement dans ma disgrâce, doublement inquiet de cette franche alliance d'un patriote de la Révolution avec un royaliste patriote et irrité en dernier lieu de l'esprit d'opposition qu'apportait Malouet dans les discussions de son conseil sur tant de mesures outrées, vexatoires. Éloigné du Conseil d'État, Malouet fut exilé à Tours, où il alla vivre en sage, moins sensible à la rigueur dont il était l'objet qu'aux maux de sa patrie. Sa disgrâce fut pour moi un nouvel indice qu'il fallait persister dans la même réserve vis-à-vis d'un gouvernement qui, dans son désespoir, pouvait en frappant dépasser toutes les bornes.